Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, Langue l'écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le président Obama a donc fait son discours d'adieu cette nuit à Chicago. Que va-t-il rester au plan économique de ses deux mandats, François ?
Écoutez, une économie qui n'a jamais été aussi dynamique et aussi inégalitaire, tout d'abord. Il faut se souvenir qu'en 2009, quand Obama arrive au pouvoir, l'Amérique s'effondre littéralement, de façon même bien plus marquée que dans les années 30. 8 ans plus tard, aujourd'hui, l'économie est dans une forme éblouissante, avec l'un des cycles de croissance les plus longs qu'elle ait jamais connu, et plus de 15 millions d'emplois privés créés sur la période.
Peut-on attribuer cela exclusivement au président Obama et à sa politique ?
Non, pas seulement. Bon, Bush, son prédécesseur et son secrétaire au Trésor, avaient déjà conçu le plan TARP pour sauver la finance et éviter l'effondrement des banques. Mmh. Et c'est vrai que l'action de la Banque centrale américaine, la Fed, a été essentielle en prêtant massivement à l'économie. Mais Obama a quand même mis en œuvre une puissante relance budgétaire contre les Républicains, d'ailleurs, à l'époque. Et il a aussi nationalisé le secteur automobile en le restructurant, en le sauvant. Dans les années qui suivirent, il a contribué à la reprise, j'allais dire, en ne faisant rien. Il a pratiqué une sorte de laisser-faire qui est assez classique aux États-Unis, même chez les démocrates, en laissant les entreprises américaines se développer. C'est sous sa présidence que la Silicon Valley, les Google, Apple et autres, Amazon, n'ont jamais été aussi puissants. Pour partie, d'ailleurs, en échappant aux impôts fédéraux.
Alors, vous parliez il y a quelques instants également d'inégalité.
Oui, non, c'est vrai, c'est la face sombre de cette reprise. Les augmentations de revenus se sont concentrées sur 1% de la population, les plus qualifiés, les plus riches. Les autres ont stagné. Et si le taux de chômage a été divisé par deux, c'est bien sûr grâce aux créations d'emplois records, mais aussi parce que le taux de participation au marché du travail est au plus bas depuis près de 50 ans. C'est-à-dire que bon nombre d'Américains, généralement les moins qualifiés, ne cherchent même plus d'emploi parce qu'ils ont perdu l'espoir d'en retrouver un.
Alors, vous le savez, on évoque souvent la création de l'assurance santé comme un élément positif de son bilan. Qu'en est-il ?
C'est vrai, aux yeux des Français, ce qu'on appelle l'Obamacare est d'ailleurs très important. Le paradoxe, c'est que cette réforme et son échec, il faut appeler les choses par leur nom, ont été déterminants dans la victoire de Trump contre l'héritière d'Obama, Hillary Clinton. D'abord parce que cette réforme a été alourdie par une complexité bureaucratique épouvantable et par des problèmes techniques terribles aussi qu'ont connu les sites internet de gestion de cette affaire. Et puis aussi parce qu'il y avait un grave problème de conception dès le départ.
C'est-à-dire, parce que c'est quand même pas si compliqué que ça l'assurance santé, même moi je comprends.
En réalité, l'idée de départ c'était d'inciter les Américains non couverts, ils sont plusieurs dizaines de millions, à souscrire une assurance grâce à un crédit d'impôt. Et les grands assureurs ont été incités, eux, à développer leur offre dans la plupart des États pour proposer leurs services de santé sur les fameux sites Internet, qu'on appelait les places de marché. Le problème, c'est que les personnes vulnérables ou malades se sont inscrites en masse, alors que les jeunes en bonne santé, dont un système assurantiel a évidemment besoin pour équilibrer ses comptes, eux, ils n'y ont pas vu l'intérêt, ils ne sont pas venus. Du coup, les assureurs ont accumulé les pertes, bon nombre d'entre eux se sont même retirés, ce qui a réduit la concurrence et provoqué une considérable augmentation des primes d'assurance. Pour 2017, l'augmentation moyenne était de 9%. Et certains États, comme l'Arizona ou le Colorado, ont enregistré des hausses de 25% des primes d'assurance. Ce qui a évidemment mis en fureur les millions de nouveaux assurés.
Merci pour toutes ces informations. Avant de se séparer, juste un commentaire sur l'État qui cède 4,1% du capital d'Engie. C'est beaucoup plus que prévu initialement. Hein.
Oui, mais ça s'explique par le fait que l'État est pressé de récupérer beaucoup d'argent. Hein. Il a besoin de beaucoup de plusieurs milliards pour renflouer Areva. En fait, l'État vend une partie de son patrimoine pour le réinvestir dans la filière nucléaire en faillite. Bon, il vend d'ailleurs médiocrement, parce que le cours n'est pas très favorable. Mais encore une fois, il est contraint par le temps et l'opération ne diminuera pas les droits de vote au sein d'Engie, la société qu'il vend, qui est l'ex-Gaz de France.
François Langlais pour Langue l'écho, tous les jours sur RTL.